Credo. Une exploration des fondamentaux de la foi chrétienne avec Monseigneur Battu, évêque auxiliaire de Toulouse.
Les conséquences politiques du monothéisme trinitaire. Qu'est-ce que le monothéisme ? Notre époque croit le savoir puisqu'elle se fait volontiers accusatrice d'un monothéisme qui, selon elle, conduirait à l'intolérance et au fanatisme, alors que l'ancien polythéisme aurait été, toujours selon elle, tolérant et inclusif. Mais il y a plusieurs manières de croire à l'unicité de Dieu, et selon la manière dont on sera monothéiste, il s'ensuivra des conséquences bien différentes. Le monothéisme de l'Ancien Testament est d'abord un monothéisme de libération, mais il est vrai qu'il devient ensuite un monothéisme de conquête. De fait, l'alliance conclue avec Dieu au Sinaï ouvre des perspectives de combat. Dieu donne à son peuple une terre, mais ce peuple doit la conquérir de hautes luttes, et nous en avons la traduction très guerrière dans le livre de Josué, qui met la terre promise à feu et à sang. Comme l'a écrit le bibliste Paul Beauchamp, je cite, « Dieu n'a pas trouvé pour l'offrir à son peuple une terre où il n'y ait personne. Israël s'en empare donc exactement comme se font les conquêtes sur la planète depuis le début des temps, par la guerre. Et donc, le comportement d'Israël conduit par Josué se rapproche beaucoup de ce qu'a pu être celui des autres peuplades sur toute la surface de la terre et de ce qui recommence jusqu'à nos jours. » Voilà un constat qui semble accablant. Le monothéisme d'Israël apparaît bien, en première approche, comme un monothéisme guerrier et intolérant. Dans les débuts de l'histoire de ce peuple, on peine à voir où passe la différence entre les peuples polythéistes, qui ont des dieux guerriers, soutenant leur appétit de conquête, et Israël lui-même, qui prétend mener la guerre de Dieu. Mais cette première impression change du tout au tout au fur et à mesure que l'image de Dieu s'affine et que le véritable monothéisme biblique s'établit. Le processus est long, car dans les temps anciens, le Dieu d'Israël existe à parité avec les dieux des nations. Il est simplement réputé plus fort et plus fiable qu'eux. C'est très progressivement qu'on en vient à affirmer que les dieux du polythéisme n'existent tout simplement pas. Comme le dit un psaume, je cite, « Les idoles des nations ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, un nez et ne sentent pas. Leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher, pas un son ne sort de leur gosier. » C'est le psaume 115. Alors le Dieu des armées d'Israël peut enfin être vu comme le Dieu de l'univers, tandis qu'Israël prend conscience que la guerre qu'il demande n'est pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances mauvaises qui sévissent aussi bien dans sa propre histoire que dans l'histoire de ses voisins. En méditant sur ces revers militaires, le peuple de Dieu se rend compte que la frontière entre la justice et le péché passe à l'intérieur même des cœurs humains, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient païens. L'avènement des derniers temps ne sera donc pas un triomphe militaire, mais l'établissement du règne du prince de la paix. Citons un grand texte qui ouvre le livre d'Isaïe. « Il arrivera dans la suite des temps que les peuples briseront leurs épées pour en faire des socs de charrues et leurs lances pour en faire des faucilles. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation. » On n'apprendra plus à faire la guerre. Isaïe chapitre 2. Le vrai Dieu, tel qu'il se révèle ici, est un Dieu briseur de guerre, selon l'expression du livre de Judith au chapitre 16. C'est avec le Nouveau Testament que l'étape décisive est franchie. Si Dieu est un Dieu de paix, s'il a un amour de préférence pour les faibles et les opprimés, c'est parce qu'il est bien décidé à épouser leur cause jusqu'à s'identifier à eux. Le triomphe de Dieu passera finalement par la condamnation injuste, la souffrance et la mort de son Christ. Le Dieu de paix, annoncé dès l'Ancien Testament, se révélera alors dans le Nouveau comme un Dieu qui n'hésite pas à descendre au plus bas pour aller chercher l'homme perdu et pour l'élever jusqu'à lui. « Il était, dit le livre d'Isaïe au chapitre 52, il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. » C'est ce que s'exclament les témoins anonymes de la passion du serviteur souffrant. Que le fameux linceul de Turin soit authentique ou non, L'homme qui y a laissé son empreinte nous donne à voir un supplicié, et c'est ce supplicié dont la foi chrétienne nous dit qu'il est Dieu avec nous, qu'il a livré le grand combat contre Satan et qu'il en est sorti vainqueur après être passé par la mort. C'est le chant de victoire de la séquence du jour de Pâques, je cite. « La vie et la mort se sont affrontées en un duel prodigieux. Le prince de la vie en est mort, mais maintenant, vivant, il règne. » Arrêtons-nous maintenant sur les conséquences de cet abaissement et de ce triomphe pascal du Christ. Dieu a sauvé le monde par un autre lui-même, qui est en même temps un homme qu'il a destiné à juger l'univers, offrant à tous une garantie en le ressuscitant d'entre les morts. C'est saint Paul qui s'exprime au chapitre 17 des Actes. Autrement dit, il y a désormais entre Dieu et nous un médiateur, un homme qui est en même temps Dieu et par qui Dieu agit. Cette dignité de médiateur entre Dieu et les hommes, plus personne d'autre que le Christ ne peut y prétendre. Tout pouvoir humain, d'où qu'il vienne, est désormais relativisé et subordonné à celui du Christ. « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, avait dit Jésus à Pilate, si tu ne l'avais reçu d'en haut. Voilà pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grave. » C'est en saint Jean au chapitre 18. Pour le dire autrement, jusqu'à la venue du Christ, la place de médiateur entre Dieu et les hommes était en quelque sorte une place à prendre. Les souverains temporels, qu'il s'agisse du pharaon d'Égypte ou des empereurs romains, pouvaient se dire représentants de Dieu ou des dieux sur la terre, jusqu'à être même divinisés. Et ce n'est pas propre aux civilisations méditerranéennes, l'empereur du Japon s'appelait souverain du ciel et il était l'incarnation de la divinité. Mais, à partir du Christ, cette absolutisation du pouvoir politique détenu par un homme est devenue contradictoire, car la place de médiateur entre le ciel et la terre est occupée pour toujours par le Christ. Même dans la tradition monarchique dite de droit divin, le souverain n'était plus qu'un serviteur de Dieu et son pouvoir n'était qu'un pouvoir subordonné. Or, il en allait tout autrement dans la théologie arienne. L'arianisme était une aubaine pour un pouvoir politique jaloux de ses prérogatives et contraint de les abandonner devant la montée en puissance du christianisme. Le Christ se voyait expulsé par la doctrine arienne de sa place de médiateur et cette place redevenait disponible pour qui voudrait la prendre ou la récupérer. C'est pourquoi les successeurs de Constantin, et peut-être Constantin lui-même à la fin de sa vie, avaient fini par trouver plus profitable pour eux de soutenir les Ariens plutôt que les partisans de la foi de Nicée. Le dieu arien, confiné dans sa transcendance absolue, n'était pas dérangeant pour eux. La foi trinitaire, au contraire, en proclamant le Christ roi de l'univers, les reléguait dans un rôle subalterne. Dès lors, pouvait se mettre en place un monothéisme vraiment absolu qui ferait pendant sur le plan théologique à ce qu'était l'Empire romain tardif sur le plan politique. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un régime dictatorial. On voit bien que ce monothéisme-là, qui puise sa justification dans l'arianisme, n'a plus aucun rapport avec le monothéisme trinitaire. Un exemple pourra illustrer mon propos, celui de la religion de Clovis, roi des Francs, avant sa conversion au catholicisme. Avant de devenir chrétien, Clovis n'était pas païen, il était arien, car les Goths avaient été convertis en partie par leur compatriote Ulfila, un évêque goth du IVe siècle, qui traduisit la Bible en langue gothique. L'historien Michel Rouche, biographe de Clovis, note à ce propos que l'arianisme des Goths était, je cite, « un totalitarisme chrétien, puisque le chef de guerre était aussi chef d'église, un cumul des fonctions qui mettait le souverain tout à fait à part du reste de l'humanité. » Je cite Michel Rouche. « Au Christ surhomme répond un roi tout-puissant. La liturgie arienne met d'ailleurs le roi à part. Il communie toujours au sang du Christ dans un calice qui lui est spécialement réservé. En somme, le roi arien conservait toute la sacralité païenne. Il était plus facile et plus tentant pour un roi prêtre germanique de glisser vers l'arianisme. Cela ne demandait pas le retournement complet qu'exigeait la conversion au catholicisme. Et surtout, il conservait tous ses pouvoirs, Il s'identifiait à l'Église, rassemblant ainsi en sa personne tous les pouvoirs humains et divins de coercition possibles. Au fond, l'arianisme était un totalitarisme chrétien. Fin de citation. Alors prenons maintenant l'exemple inverse, celui de la relativisation du pouvoir politique par la foi chrétienne. À la fin du IVe siècle régnait l'empereur Théodose, celui-là même qui convoqua le concile de Constantinople et qui donna au christianisme le statut de religion d'État. À la suite d'un incident scabreux qui avait provoqué une émeute à Thessalonique, Théodose organisa une répression qui tourna au massacre. On dénombrait entre 7000 et 10 000 victimes. Mais, en apprenant cet acte barbare, l'évêque Ambroise de Milan ordonne que Théodose fasse repentance et vienne s'humilier pour obtenir son pardon, et Théodose finit par s'exécuter. Il est clair que rien de semblable n'aurait pu se produire à l'époque où l'Empire était païen, et pas davantage sous un empereur arien. On constate donc, comme le dit Joseph Ratzinger, que, je cite, « la foi trinitaire chrétienne a fait éclater les schémas utilisables à des fins politiques. Elle a supprimé la théologie comme mythe politique. Elle a refusé de faire servir la prédication à la justification d'une situation politique. » Alors on pourra bien sûr objecter, à juste titre, que l'histoire des peuples chrétiens fournit une multitude de contre-exemples. Les régimes dictatoriaux n'ont pas manqué dans cette histoire. Mais aucun de ces régimes n'a jamais pu se prévaloir de la foi et de la théologie chrétienne, catholique, pour justifier son existence. L'histoire nous montre également qu'il n'en va pas ainsi de toutes les religions. Le monothéisme trinitaire n'est donc pas un monothéisme parmi d'autres, il est profondément antitotalitaire parce qu'il confesse un Dieu qui vient s'unir à l'humanité pour l'élever jusqu'à lui. Et c'est tout à fait nouveau dans l'histoire de l'humanité.